Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Salut, ici Jean Fontaine. Raconte-moi l'Ouest et le Nord. Aujourd'hui, Suzanne Campagne, raconte-moi Art Rouge. Art Rouge est né en 1986. Ce groupe musical est composé de quatre frères et sœurs, Suzanne, Paul, Annette et Michel Campagne, originaires de Willow Bunch en Saskatchewan. Art Rouge a connu une carrière remarquable qui s'étale maintenant sur plus de trois décennies et qui inclut 10 albums, des chansons qui ont été numéro un dans les palmarès québécois, des tournées partout au Canada et dans plusieurs pays du monde. Art Rouge, c'est un groupe qui a fait rayonner l'Ouest partout dans la francophonie canadienne et bien au-delà, et qu'on continue d'écouter avec plaisir. Femme de terre, femme d'amour, femme de chair, femme toujours. Aucun mur, aucune frontière ne pourront l'arrêter, cette femme de lumière.
C'est toi que je veux, toi que je respire. Et si j'avais le cœur de dire tous les mots, tous les cris de tendresse que j'ai dû retenir.
Et je suis très, très fier de dire que ma première invitée à Raconte-moi l'Ouest et le Nord, ce sera Suzanne Campagne de Willow Bunch en Saskatchewan. Bonjour, Suzanne!
Bonjour, Jean!
Ça me fait tellement plaisir de te parler. Écoute, moi, Art Rouge, j'ai vécu ça un petit peu de l'intérieur parce qu'on se connaissait très bien en 1986. J'ai des grands, grands, grands souvenirs de Art Rouge, de ce groupe qui a vraiment marqué, je trouve, l'Ouest canadien, mais qui a marqué son époque aussi. Est-ce que tu en gardes, toi aussi, des grands souvenirs impérissables du groupe Art Rouge?
Oh mon Dieu, oui, que oui. Et puis, Art Rouge, on fait encore des spectacles de temps en temps. C'est des spectacles qui sont plutôt d'ordre privé, des événements privés, mais Art Rouge a été un groupe qui a connu beaucoup, beaucoup de transitions, puis beaucoup de succès. Je pense que c'est un groupe qui, comme Fall Avoine, faisait ressortir un peu l'harmonie. Mm-hmm. Puis quand je parle de l'harmonie, je parle pas rien que des voix, mais je parle de l'harmonie familiale encore. Et puis, on pense qu'il y avait tellement un besoin pour un groupe qui pouvait parler de ça, de l'harmonie, puis d'amener de la beauté dans le monde, sans vraiment faire beaucoup de politique, sans vraiment... Alors, c'est des bons souvenirs que j'ai d'Art Rouge. On a participé à des événements avec beaucoup de grands artistes. Mm-hmm.
Oui.
Francis Cabrel, Johnny Cash, toutes sortes d'artistes. Alors, c'est vraiment incroyable, moi, je pense, comme tu dis, d'avoir vécu ça.
Et c'est l'aboutissement, évidemment, d'une famille, la famille Campagne, qui est une famille musicale. J'aimerais ça que tu me parles un peu de comment ça a commencé, la chanson, pour Suzanne Campagne, pour les membres de Art Rouge, en fait, pour toute la famille Campagne à Willow Bunch.
Ben, au départ, on chantait pour contribuer à la communauté francophone dans notre communauté et ensuite dans les communautés des amis de mon père. qui fois qu'ils venaient de Zénoparc ou de Saint-Denis. Alors, on chantait pour contribuer à la communauté. On chantait aussi pour amener un côté qui était peut-être moins provoquant auprès de la communauté majoritaire. Chanter, c'est toujours plaisant. D'entendre des jeunes chanter, c'était toujours plaisant. Puis quand on le faisait en français, ben on apportait, je pense, une sensibilisation auprès de la majorité. C'était le but de mon père. C'est la raison qu'on a commencé vraiment à chanter. Puis ma mère aussi elle aimait faire des petites robes semblables pour ses six filles. Alors, elle aussi, ça faisait son affaire là, de nous présenter dans une belle façon là, auprès de la communauté.
Willow Bunch, c'est pas loin de Pontex, où est né, lui, Roland Stringer, qui deviendra plus tard le gérant de Art Rouge, qui est devenu aussi votre ami à l'école secondaire. J'aimerais ça retourner dans tes souvenirs, Suzanne. On va écouter Roland, ce qu'il avait à dire au sujet, justement, de la famille Campagne, quand la famille chantait au secondaire.
Je les ai connus, je les ai vus en spectacle durant tout mon secondaire. Soit que c'était des spectacles, on était en partie, Paul sortait la guitare, les sœurs commençaient à chanter, alors ils avaient un talent qui tout le monde le remarquait. Hein? Et puis assez tôt aussi, je me souviens, chacune participait à des concours de chansons. Alors on voyait, par exemple, je me souviens très bien d'un soir où c'était à la finale Solange contre Suzanne. Et puis, on était comme, oh, qui pourrait gagner ça? Et puis, franchement, je me souviens pas de cette soirée-là en question, si c'est Solange ou Suzanne, mais je sais que c'était très serré jusqu'à la fin.
Suzanne, qui avait gagné ce fameux concours?
J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'était probablement moi.
Ah, c'est très drôle ça. Mais déjà, puis Roland l'a mentionné quand on lui a parlé, le talent, on le sentait, c'était déjà très, très fort. Il y avait quelque chose d'assez particulier dans tout ce talent au sein d'une même famille. Et à un moment donné, vous êtes allé au Manitoba. Je pense que c'était pour la plupart pour poursuivre vos études au Collège universitaire de Saint-Boniface, si je ne me trompe pas.
Exact, oui.
Est-ce que c'est là qu'est né Follavoine?
Follavoine est né, en fait, au tout début, en 79, on chantait sous le nom de la famille Campagne, puis notre père chantait avec nous. Puis Follavoine, je pense que c'est né plus ou moins en 80-81, où c'était plus les sept, mon frère et mes cinq sœurs. Alors, c'est ça, c'était en 81 vraiment. Et puis, on était justement, beaucoup de mes autres sœurs, mon frère, ils étaient déjà à Saint-Boniface pour poursuivre leurs études. Puis moi, je crois que j'ai déménagé au Manitoba en 81. Alors, c'est à ce moment-là que on a commencé à vraiment faire de la tournée un peu partout. Et puis, Air Canada faisait une fortune avec nous parce qu'on était un peu partout. Là. On avait deux en Saskatchewan. Aline faisait des études à Ottawa à un moment donné. Alors, c'était assez intéressant quand on acceptait des contrats, soit dans des festivals ou dans des événements au Québec ou ailleurs. C'était pas mal intéressant. On se rencontrait deux jours avant pour répéter un peu, puis ensuite on faisait le show.
De ce que je comprends, il y avait quelques compositions originales, mais essentiellement, Follavoine, c'était de la musique traditionnelle, des chansons traditionnelles.
Oui, c'est des chansons traditionnelles qu'on arrangeait, qu'on réarrangeait à notre façon. Alors, il y avait un peu un élan un peu plus moderne avec les chansons traditionnelles, mais ça demeurait vraiment des chansons traditionnelles qu'on pigeait d'un peu partout, en Acadie, en Ontario, en France même. On avait grandi avec tellement d'albums francophones et anglophones d'un peu partout que c'était plutôt notre répertoire, ça.
Et puis là, on arrive justement autour de 1986. Follavoine existe toujours, mais il y a des gens qui veulent peut-être se détacher du groupe parce que pour toutes sortes de raisons. Mais tout à coup, on se retrouve avec cette idée de former Art Rouge. J'aimerais ça que tu me parles de la naissance de Art Rouge. Comment? C'est quoi la genèse du groupe?
En fait, on avait fait presque 8 mois de tournée en 86. Puis je pense que ça a déterminé pour tous et chacun d'entre nous, bon, est-ce qu'on veut vraiment faire ce métier-là? Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut être basé à un endroit et puis vraiment cibler un genre musical et aller là? Ou est-ce qu'on veut commencer à vraiment aller jusqu'au bout? Avec tu sais d'autres groupes qui faisaient de la musique, parce que rappelons-nous que la musique pour des artistes franco-canadiens était pas si développée que ça là. Il y avait beaucoup d'artistes québécois, mais la notion des Robert Paquette des 1755, c'était assez nouveau, le concept de la francophonie canadienne. Alors on avait un choix à faire, on avait aussi un choix à faire si on voulait commencer à créer, à avoir une vraie voix, à créer des chansons, à les écrire, à les composer, à les livrer, pour un peu avoir une voix unique et puis notre perspective sur ce que c'était d'être un artiste de l'Ouest, tout le reste. Alors, on avait à décider, 3 des membres de ma famille avaient plus ou moins décidé que ils voulaient demeurer dans l'Ouest, ils avaient déjà développé des carrières. Alors, c'est les 4 d'entre nous et Roland, on a décidé, en 87, de commencer à faire des albums, à écrire nos chansons, à trouver une maison de disques qui allait nous aider avec les productions puis la promotion. Puis c'est ce qu'on a fait avec la maison de disques de Trafic, qui était la maison de disques de Daniel Lavoie. Et puis c'est à ce moment-là qu'on a créé notre premier album qui s'appelait Et après tout ça.
Imagine que tout ce que tu vois est à la portée de tes doigts, que le prix est payé, comptant crédit, quoi que ça soit.
On va écouter Roland Stringer, qui c'est le gérant de Art Rouge à l'époque, qui nous parle un peu du climat ou du milieu musical québécois à cette époque-là.
On est dans un contexte où, au niveau de la chanson francophone ou franco-québécoise, si j'ose dire, c'est un peu la récession. C'est-à-dire que au Québec, on a vécu les années d'Harmonium, les années de Beau Dommage, Octobre. Et après, il y a une véritable, on peut dire, une récession, c'est-à-dire que les multinationales nord-américaines, américaines, quittent le marché québécois. Et il y a un énorme vide. On a l'impression qu'il faut aller ailleurs, que la musique acoustique ne passe plus. On veut être plus, entre guillemets, plus moderne. On veut des tunes qui passent à la radio. Les grandes stations de radio au Québec, c'est quoi FM, par exemple, ils cherchent du contenu radio, ils veulent du contenu pop, ils veulent pas un gratteur de guitare, ils veulent pas de la chanson trad. Le début d'Art Rouge arrive en plein, c'est la transition Follavoine à Art Rouge, c'est une transition où nous, les membres de Art Rouge, Paul, Suzanne, Annette et Michel, et moi, on est complètement dans cette mouvance-là aussi. On veut faire des tunes qui passent à la radio. On veut, c'est bien en partie, en soirée, d'avoir sorti la guitare puis faire des trucs à 3-4 voix, mais on a vraiment envie, en fait, de créer, de faire de la chanson originale, francophone, et de la diffuser, et l'ambition était à ce moment-là, faut bien s'entendre, on voyait Daniel Lavoie qui commençait à bouger en France, alors l'ambition de Art Rouge c'était d'aller partout au Canada, mais en Europe aussi.
C'est une ambition très forte et je pense que Roland le dit bien, mais je pense que tout le groupe avait des aspirations majeures. Quand on a décidé de se lancer pour de bon, Suzanne, on voulait aller jusqu'au bout, on voulait aller aussi loin que c'était possible. Est-ce que je me trompe?
Oui, non, c'est bien ça. Roland l'a bien dit, puis on était dans cette mouvance-là.
Je veux revenir, Suzanne, un petit peu au début de Heart Rouge, parce que moi, j'ai vécu ça de l'intérieur, parce qu'on avait un appartement sur la Wellington Crescent que j'ai partagé avec Roland et toi. Et puis, on va écouter Roland Stringy, ce qu'il avait à dire au sujet de cet appartement sur la Wellington Crescent à Winnipeg.
L'appartement, on avait découvert, l'appartement, c'était l'ancien consulat hongrois à Winnipeg. Donc, c'était un énorme appartement avec un grand, grand salon. Bon, je me suis dit, oh non, mais il faut absolument que je loue cet appartement-là. Alors, j'appelle Suzanne, parce que j'étais justement, je commençais sur la trouge, Suzanne était, et j'ai dit, écoute, viens voir ce superbe appartement. Et je pense que ça serait génial. Je pourrais avoir mon bureau pour la trouge là-dedans. Il y a un grand lieu pour répéter toute affaire. On est allé voir. Et puis, effectivement, on a loué l'appartement ensemble et ensuite, on a recruté des colons. Donc, un jeune Québécois qui débarquait à Montréal, qui connaissait quand même à ce moment-là pas très bien la ville, il s'est retrouvé sur Wellington Crescent avec nous, notre cher Jean Fontaine. Moi, je garde des beaux souvenirs de ces moments-là. Évidemment, le groupe a répété, les premières chansons ont été écrites dans cet appartement-là.
Alors voilà, donc un mot, si ça m'évoque beaucoup de souvenirs. Il te rappelle quoi, toi, cet appartement-là de la Wellington Crescent?
Oh mon Dieu, c'était toute une histoire, cet appartement-là. D'ailleurs, c'est vrai, c'était vraiment grand. Il y avait toutes sortes d'activités qui se passaient là-dedans. On faisait nos répétitions avec Heart Rouge dans cet appartement-là. Mm-hmm. Il y avait des personnalités là qui habitaient l'appartement. C'était excitant, c'était très artistique. Et moi, j'allais dire, c'était qui là, le Québécois qui est venu s'installer? Oh, OK, c'est Jean Fontaine. Oui, alors on avait du grand fun. Et puis c'était inspirant à cette époque-là. On se lançait, on était plein de projets, d'espoir. Puis c'était un moment très, très riche. Pour moi, à ce moment-là.
Et puis, c'est drôle parce que au même moment, vous avez commencé à faire des spectacles. Je me souviens d'un spectacle et la foule était tellement derrière vous. C'était incroyable. Vous aviez un public qui était acquis déjà à Saint-Boniface, à Winnipeg, au Manitoba. Mais là, quand on décide d'aller all-in, comme on dit au poker, puis on décide de déménager les quatre à Montréal avec les cinq avec Roland, là, vraiment, il faut quand même avoir... Je dirais de l'audace, ma chère Suzanne, pour y aller comme ça, à fond.
Oui, oui, il fallait avoir de l'audace. Puis je veux dire, des fois, c'est mieux de ne pas savoir ce qui nous attend, là, pour prendre des décisions. On avait de l'audace, mais on avait aussi un grand espoir qu'au moins on allait aller jusqu'au bout. Puis on était vraiment intéressés à développer nos propres chansons et tout ça. Alors, et puis, c'était difficile parce qu'on avait été connu de par notre participation avec les danseurs de la Rivière Rouge, qui avait été phénoménal pour nous. On avait aussi le Festival du Voyageur, qui avait été un moyen pour nous de se faire connaître. Et puis, on avait des bons rapports. On aimait vivre au Manitoba. On avait des bonnes amitiés, des bons liens. C'était de quitter tout ça. C'était épeurant, mais en même temps, on était quand même soudés, les cinq de nous. Et puis aussi, il faut dire que ça n'a pas toujours été très facile non plus de prendre ces décisions-là au niveau de la famille. Mais on est arrivé à Montréal, on a vécu sur des matelas d'air dans des appartements, toutes les cinq ensemble pendant au moins un an. La transition a été difficile, mais je dois dire que quand Daniel Lavoie et Trafic nous ont signé, ça a été un grand soutien aussi. On a commencé à saisir que il y avait vraiment du potentiel à se faire connaître aussi au Québec. Et puis, les meilleurs souvenirs que j'ai de ces temps-là, c'était de connaître des Marie-Philippe, des Luc de la Rochelière, et puis toute la gamme d'artistes qu'il y avait au Québec. On commençait à faire des émissions de télé, on commençait à participer. Puis, c'était de rencontrer des Michel Rivard, puis c'était excitant. Pour nous, on sentait comme si on était accueillis aussi. Alors, c'était des bonnes années à ces moments-là, c'était des bonnes années.
J'aimerais que tu me parles de ta rencontre avec Daniel Lavoie, parce que je ne pense pas que vous le connaissiez avant d'aboutir à Montréal.
Non, on ne le connaissait pas. Et puis, sans encore, c'est Roland. Roland avait vraiment une vision très, très, très intéressante pour nous. Puis Roland, c'est lui qui a dit, bon, bien, il faut qu'on se trouve une maison de disques. Je pense qu'avec Daniel Lavoie, au moins il peut saisir qui on est, qui on était, vu qu'il venait aussi de l'Ouest. Alors, il a commencé à avoir des bons rapports avec Régent Rancourt, qui à ce moment-là était le directeur de Trafic, était le partenaire de Daniel. Puis c'est comme ça qu'on a été signé. Je ne sais pas si c'est plus Rancourt ou Daniel Lavoie qui ont fait ce qu'on a dit.
Oui.
Oui, mais peu importe. C'était des liens qui se... Ça faisait du sens d'aller avec Trafic. Alors, c'était une bonne chose pour nous.
Suzanne, on va écouter justement Roland qui nous parle de quand il a su que finalement Trafic embarquait avec le projet Art Rouge.
Le travail de gérant, c'est un travail aussi, je parle, il y a eu beaucoup d'expérience, je tournais beaucoup avec le groupe, mais il y avait une partie de ma profession qui était vraiment en solitaire, où je partais un peu, évidemment, présenter les enregistrements, présenter les démos, comme on les appelait, où on arrivait avec notre cassette, puis on la donnait, puis le responsable de la compagnie de disques l'écoutait devant toi, puis finalement, 9 fois sur 10, tu disais que c'était vraiment pas ça qu'il recherchait, et puis que finalement, il savait pas trop ce qu'on faisait au Manitoba, mais c'était peut-être mieux de rester chez nous. Mais des fois, il y avait des surprises. Et puis, il y a une fois, notamment, et c'était chez les disques Trafic, c'était la compagnie de disques, par hasard, de Daniel Lavoie, bien que nous ne connaissions pas Daniel à l'époque. La rencontre s'est faite entre moi et le gérant de Daniel, Régent Rancourt. Et Régent, il a écouté. J'arrivais avec deux, trois chansons et puis il a dit ouais, on pourrait le sortir en 45 tours. Pour moi, c'était une plus belle journée de ma vie. Et tout de suite, j'ai appelé Suzanne à Winnipeg. J'ai dit, Suzanne, on sort un 45 tours chez Trafic. C'était Double Take, une chanson pop que le groupe avait créée à Montréal et réalisée avec Normand Dugas, quand ils avaient le démo, avait été fait dans le sous-sol chez Normand.
Double, double tic, double, double tic, double tic, double, double tic, double, double tic. Double, double tic, double, double tic, double tic, double tic, tic, double tic.
Suzanne, donc un premier 45 tours, effectivement, j'imagine que c'était, ça devait être quelque chose pour le groupe d'apprentis.
Ah oh, oui, et puis là, ben Trafic, ben c'est quoi Trafic? Ben ok, un 45 tours, double take. Je pense qu'on a fait un numéro 1 à Chibougamau. Ben c'est où Chibougamau? C'était tout un apprentissage. C'est tout un apprentissage, mais écoutez, Roland avait tellement d'enthousiasme, il était tellement content que je pense qu'on s'est dit bon, alors c'est parti. C'est surtout l'enthousiasme de Roland, je pense, qui a fait qu'on s'est dit waouh, ok, ça doit être bon là, ça doit être vraiment bon là qu'on fait ça. Alors ça a été le début d'une belle complicité quand même avec Traffic.
Roland nous a raconté que sur la face B, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ça, un 45 tours, c'est un single, mais il y avait deux faces dans le temps, alors on pouvait mettre une deuxième chanson, et c'était la chanson « Et après tout ça ». Mais n'empêche que ça, Suzanne, « Et après tout ça », c'est une chanson importante pour Artrouge. Est-ce que ce n'est pas la première que vous avez écrite?
C'est vraiment la première, oui. Une première tentative d'écrire une chanson, la composer, de la produire. Et puis, on avait fait une vidéo en Manitoba, je pense, dans le contexte encore du Festival du Voyageur, qui avait été vraiment bien reçu. Et puis, c'est une chanson qu'on chante encore aujourd'hui, et avec Artrouge, puis avec Follavoine. Oui, c'est une de nos chansons. Je sais pas, c'est notre coup de cœur, je pense, un peu, et après tout ça.
Ouais. Suzanne, j'aimerais que tu me parles aussi d'une chanson qui a été numéro un au palmarès. Et pour une fois, le lead, c'était pas une des filles campagne, c'était Paul qui chantait « C'est elle ». Évidemment, tout le monde chante parce que tout le monde chante tout le temps dans Artrouge. Mais parle-moi de « C'est elle » parce que je sais pas si on s'attendait au succès que cette chanson-là a connu.
Non, je pense pas. Je pense pas qu'on s'attendait à ce succès-là. Et puis, c'était le temps que Paul puisse chanter une chanson parce que le pauvre, on lui donnait pas beaucoup de chance souvent, là, mais il faut dire que une fois qu'il avait sa chance, ben, il est allé numéro un. Alors, on se dit, OK, c'est bon. C'est une chanson où la musique avait été composée par Connie Calder et j'avais traduit le texte de l'anglais au français. Et puis, c'était vraiment une musique qui était entraînante, qui était positive comme musique. C'était tout dans des notes majeures. Alors, je pense que c'était une chanson d'épée, et puis une reconnaissance, je pense, des femmes. Puis c'était bien que ce soit Paul qui la chante parce que c'était une reconnaissance, je pense, de ces femmes tonnerres, de ces femmes inarrêtables. Alors, c'était un thème qui était intéressant, c'était une musique qui était entraînante. On a sorti ça un bon moment, l'été. Ça faisait léger, puis ça a été un bon succès.
Parfois un choc ou elle malade, parfois un charme et après c'est le drame.
J'aimerais que tu me parles, Suzanne, maintenant de l'accueil au Québec. Parce que oui, vous avez été chanceux d'avoir la famille Trafic qui vous accueille. Donc, tu parlais de Marie-Philippe, Luc de la Rochelière, Daniel Lavoie. Mais n'empêche que quand on arrive de l'Ouest avec notre accent à nous, puis là, on arrive au Québec, et puis il faut s'implanter. Est-ce que vous avez senti que vous étiez bien accepté par le peuple québécois qui découvrait peut-être pour la première fois des artistes qui venaient de l'Ouest du pays?
Qu'on a été accepté, oui. C'est certain que une des choses qui était plus ou moins blessante pour nous, c'est que quand des fois on parlait en français, on leur parlait en français parce que nos parents nous avaient dit pendant des siècles que bon, vous continuez à parler français parce que vous allez vous trouver dans un milieu un jour où on parle que le français puis vous allez être heureux d'être capable de parler le français. Mmh. Alors là, on est arrivé au Québec puis quand on parlait en français, souvent on nous parlait en anglais parce qu'on entendait l'accent. Puis c'était un peu un choc pour nous. C'était remarque, quand on faisait des spectacles, il y avait vraiment des types de personnes qui aimaient beaucoup ce qu'on faisait comme produit. Parce que, comme je disais, c'était très vocal. Si des gens aimaient l'idée de la musique chorale ou des choses, ça venait les chercher, puis ils aimaient ça. Puis ils aimaient aussi la notion d'une famille qui se tenait. Je pense que c'est quelque chose, c'est une thématique qui nous a beaucoup fait accepter au Québec. Mais je pense qu'on a été plus, c'est plus quand on a commencé à faire le travail aussi avec Carmen Campagne, que c'est là où il y avait vraiment une acceptation de nous. Puis, et puis, il faut dire aussi qu'on avait un choix à faire, parce que Daniel Lavoie, bien qu'il venait de l'Ouest, ne disait pas. C'était une stratégie avec sa compagnie 10, il ne disait pas qu'il était de l'Ouest. Nous, on le disait. Nous, on s'est dit, on veut quand même toujours être reconnu pour des gens qui viennent de la Saskatchewan. Souvent, on disait, ben ils sont des franco-manitobains, puis là, les Fransaskois étaient indignés parce que c'était pas vrai, puis oh mon Dieu, ça a apporté toutes sortes de choses, ça, mais tu sais, on avait fait un choix de s'afficher aussi comme francophone de l'Ouest, et puis ça, c'était toute une autre chose aussi qui faisait que des fois, les Québécois, alors, réagissaient, disant, ben, vous êtes ici maintenant, là, vous n'avez pas besoin nécessairement toujours de le dire. Voilà.
Tu le disais tantôt, le groupe n'est pas dissous officiellement. Vous faites encore des chansons de Harte Rouge, que ce soit sous le nom de Follavoine, de la famille Campagne. Ça existe encore. Vous chantez encore ensemble. On vous a vu au Festival du Voyageur à Saint-Boniface en février, juste avant la pandémie. Ouais. En tout cas. C'est ça, février 2020. Donc, ça existe encore, Harte Rouge, mais il y a eu toute une évolution aussi. Vous avez fait des tournées, vous êtes allé en Europe, vous êtes allé même en Estonie, si je ne me trompe pas, qui est
tout près de l'Ukraine. Oui, en Estonie. Oh, quelle aventure! D'ailleurs, on avait tourné le vidéo de Seppel en Estonie.
Ah oui?
Oui, le vidéo qu'on a fait était d'Estonie. Oh, puis c'était la première fois en 30 ans qu'ils recevaient, ils organisaient un festival où les gens de l'Amérique du Nord venaient. C'était vraiment toute une affaire. Il y avait des foules et des foules en Estonie. Oh, c'était tellement une expérience inoubliable. On avait un type qui nous aidait, qui était notre traducteur, si vous voulez, puis il nous aidait à trouver toutes sortes de choses qu'il nous fallait. Il nous avait trouvé une vieille chaise roulante d'un hôpital qui agissait comme une espèce de trolley de caméra pour notre film. Ah, c'était incroyable. Il s'appelait Eric, ce gars-là, puis au bout de la... C'est juste une anecdote. Au bout de notre séjour en Estonie, c'était la norme qu'on donne un peu d'argent à ces gens-là qui... C'est le marché noir. Ils fonctionnaient sur le marché noir, pas mal. Alors, je me rappelle, on avait donné un billet de $50 américains à Eric à la fin de notre séjour. Puis, il a commencé à pleurer. Oh. Puis, on s'est dit, oh, c'était pas... Il s'attendait d'en avoir plus, peut-être, c'était pas... Puis là, il nous a regardé, il a levé la tête, puis il a dit, savez-vous que vous venez de me payer 3 ans d'université?
Oh, mon Dieu!
Avec ce $50. Bon.
Ben voyons.
C'était inoubliable. Wow. Oui, c'était inoubliable, ces moments-là. Puis, je pense que quand on faisait de la tournée, comme en Barcelone, en Estonie, au Vietnam, c'était la découverte et totalement différente, des découvertes qui ont marqué nos vies à jamais. Puis les rencontres qu'on a faites avec des artistes qui étaient des grands héros pour nous, là, c'était aussi des grands moments.
Et je dois dire, parce que je ne sais pas si on l'a dit assez, tu parles du fait que vous étiez un quatuor vocal, puis c'était vraiment les voix qui faisaient la grande force de Harte Rouge, ça c'est sûr et certain, les harmonies, c'était extraordinaire, un talent vraiment fou, puis j'imagine, et moi je me souviens de Harte Rouge sur scène. Sur scène, vous étiez absolument formidable. Alors j'imagine que même en Estonie, si on ne vous connaît pas, ou en Pologne, ou je ne sais pas quoi, les gens ne peuvent pas faire autrement que de faire comme... Oh, wow! L'effet wow de Harte Rouge, il a toujours été là.
Ben, il y avait un effet wow avec les voix, mais l'effet wow, c'était souvent parce qu'on venait de la même famille aussi.
Okay.
Ça, c'est quelque chose qui était très... qui a été une marque pour nous, tu sais, qu'on venait de la même famille, puis qu'on chantait comme ça. c'était aussi important, je pense, que la reconnaissance des arrangements de voix qu'on faisait là. Et puis, c'est ça, notre capacité aussi de faire a cappella, ça a été quelque chose qui était vraiment bien reconnu. Par exemple, on avait fait un concours à Sopot et puis il y avait une vingtaine de musiciens qui accompagnaient les artistes, mais on nous a dit à la dernière minute, ben ça va vous coûter 2 000 $ pour qu'on vous accompagne. Puis on a dit, non, on va juste faire la chanson a cappella. Alors on a fait la chanson qu'on devait faire avec l'orchestre a cappella et puis on a gagné le prix, un prix du commanditaire. On a passé à la télé nationale en Pologne et on a gagné une mini Porsche qu'on a reçue 8 mois plus tard. Oui.
Est-ce que vous l'avez conduit?
Ben non, on l'a vendu au gérant de Platinum Blonde.
Vraiment? Oui. Au gérant de Platinum Blonde?
Ben oui, il voulait acheter ça pour son fils, alors.
Il faut quand même qu'on parle de l'évolution de Heart Rouge, parce qu'en 1996, Annette décide d'aller de son côté, voulait faire des chansons à elle, des chansons plus rock.
Oui.
Et est-ce que c'est à partir de cette époque-là aussi que Heart Rouge a peut-être un peu plus délaissé le pop-rock pour retourner vers le folk?
Oui, c'était plus... c'était en fait à cette époque-là. Parce qu'Annette était vraiment une énergie très rock-pop. Mm-hmm. Et puis, c'est ce qu'elle voulait développer. Puis c'était parfait. Ultimement, c'était... Tout se passe pour des raisons dans la vie. Hein. Oui. Et puis, on s'est dit, OK, bien, on va revenir un peu à la source. Parce qu'à ce moment-là, on avait commencé à faire de la tournée aux États-Unis aussi. Puis, ce qui semblait passer bien, c'était justement plus le Americana folk traditionnel un peu. Alors, on avait signé avec une compagnie qui s'appelait Red House Records et on avait créé l'album Beau Présomme, qui est un album bilingue, puis qui est un mélange de toutes sortes de genres. Puis, ça a probablement été un de nos plus grands albums, Beau Présomme, qu'on a fait avec Red House Records. Oui, et puis après ça, on a fait Nouvelle-France, une histoire de famille. On voulait quand même revenir un peu à l'essentiel, plus dénudé. On commençait à faire des spectacles avec des quatuors, symphonie, puis ça marchait vraiment bien aussi. C'est ça. Et puis mais le dernier album, J'ai fait un rêve, était un peu plus produit. C'était plus produit, il y avait plus de d'arrangements. C'était plus presque un world beat, une approche plus comme ça. Alors on a toujours expérimenté. On n'a jamais non plus fait des albums pour être commercial. C'était important. C'était vraiment une expression de ce qu'on vivait artistiquement sur le moment. Puis certains diront que peut-être c'est ça qui a fait qu'on n'a pas vendu des 200 000 albums. Mais de notre côté, c'est qu'on a toujours été un peu fidèle à qui on était. Puis je pense qu'à la longue, ça nous a donné une reconnaissance, une possibilité de voyage un peu partout autour du monde. Et voilà, c'est ça. On regrette rien, je pense, par rapport à notre carrière.
On va écouter, parce que tu parlais de l'album, tu évoquais l'album « J'ai fait un rêve », on va écouter un extrait de la chanson « Amuseur de filles ».
Mon père me demande
Suzanne Campagne, ça a été un plaisir de parler de Heart Rouge avec toi, puis sans qu'on n'a même pas... On est juste à la pointe de l'iceberg en ce moment.
Oui.
Il y a encore mille et une histoires qu'on aurait pu raconter, mais ça a été formidable.
Merci, Jean, pour ça. Puis bonne chance avec ta série de podcasts. bonne chance à Web West. J'espère que ça va être un long succès, ce truc-là, parce que c'est certainement un besoin qu'on a dans l'Ouest canadien.
Merci, Suzanne Campagne.
Merci, au revoir. Et si j'avais le cœur de dire tous les mots, tous les cris de tendresse que j'ai dû retenir.
Raconte-moi l'Ouest et le Nord, une production de Web West Balado. À l'animation, Jean Fontaine. Ses invités, Suzanne Campagne et Roland Stringer. À la réalisation, Jean Fontaine et Yann Dallaire. Et si j'avais le cœur